aujourd'hui, après un flash info sur la situation à Lyon 2, nous allons vous présenter les informations, donc d'abord sur l'international, puis le national et enfin le local. Notre sujet focus du jour, ce sera les difficultés actuelles des associations écolo, avec donc petite chronique, des invités qui nous parleront de leur situation. Et ensuite, comme d'habitude, on fera une petite partie sur l'agenda de la prochaine semaine.
Alors, flash info, comme Rotsan nous l'a expliqué, donc aujourd'hui, dans l'après-midi, le collectif des étudiants en sans-papiers de Lyon 2, de Lyon et Saint-Étienne ont commencé à organiser une manifestation pour demander à l'université l'inscription des étudiants sans-papiers. Et devant le refus et la non-avancée de toute de l'administration, ils ont décidé en fait de lancer l'occupation de la présidence de l'université Lyon 2. Et donc ils ont lancé un appel à soutien vu qu'ils ont prévu de dormir là-bas. Donc il y a une table de presse, il y a des banderoles, donc surtout n'hésitez pas à passer les voir. Donc je vais vous lire le papier qu'ils nous ont envoyé pour expliquer la situation. Donc, face au refus de la présidence de procéder aux inscriptions des camarades sans papier, le collectif des étudiants étrangers de Lyon sans papier et solidaire occupe les bâtiments de la présidence de Lyon 2. Ils ont décidé de rester dormir sur place. Bonjour, nous sommes membres du collectif d'étudiants étrangers sans papier de Lyon et Saint-Étienne sans papier solidaire et nous voulons vous transmettre un message d'une trentaine de nos camarades actuellement dans les locaux de la présidence. Nous sommes des membres du collectif. Depuis longtemps, nous nous battons pour avoir le droit d'étudier et depuis le mois de juin, nous discutons avec la présidence pour pouvoir nous inscrire à l'université. Nous avons suivi la procédure d'orientation qu'elle nous avait indiquée, mais aujourd'hui, la réponse est encore négative pour la plupart d'entre nous. Nous occupons actuellement les bâtiments de la présidence et réclamons d'être inscrits immédiatement. Pendant la campagne électorale, la présidence s'affichait solidaire et est à la recherche de solutions pour les étudiants en situation particulière. Aujourd'hui, nous constatons le contraire, puisqu'elle refuse toujours d'inscrire plus d'une vingtaine d'entre nous. Pour justifier ces refus, la présidence invoque la pression de la préfecture. Elle considère que nous ne relevons pas d'une situation d'urgence et que nous ne serions pas aptes à suivre une formation universitaire. Risquer de se faire interpeller à la gare ou à son domicile, ce n'est pas une situation d'urgence. Être interdit de travailler, ne pas avoir le droit à un logement, risquer tous les jours de se faire enfermer, expulser, ne serait donc pas une situation d'urgence. Nous avons décidé de rester dans ces bureaux jusqu'à ce qu'on obtienne les inscriptions demandées. Nous n'avons de toute façon nulle part où dormir, nous resterons donc ici jusqu'au bout. Ce week-end a été publié une tribune sur Libération signée par une centaine d'universitaires et de collectifs qui revendiquent le droit d'étudier, la liberté de circulation et l'égalité des droits pour tous les étudiants sans titre de séjour. La condition des étudiants étrangers fait l'actualité nationale. Au collectif, nous nous battons depuis l'année dernière pour l'accès à l'université, la régularisation et l'accès au logement pour tous et pour toutes. Nous ne pouvons fermer les yeux et rester indifférents. Nous devons tous et toutes agir maintenant.
Ce samedi, la Russie, dirigée par le camarade tsar Poutine, a mis son veto à l'ONU sur une proposition de la France, accessoirement dirigé par le président de la République, Franco Hollande. Donc les jours d'avant, on avait eu le droit à une bonne séquence sur les déclarations tonitruantes de Hollande ou de Hérault. Donc le genre de déclarations qui restent dans l'histoire. C'est des vrais punchlines pour la postérité. Donc Hérault, il invoque les esprits de la France, peuple grandiose, éducatif, qui accueille tout le monde, et il apporte sa parole de paix. Il appelle une révolte des consciences, comme à côté de chez lui, à la ZAD. Hollande, lui, il montre du doigt. Le pays qui mettrait le veto à la superbe proposition de la France serait discrédité aux yeux du monde. Donc n'oublions pas que notre Hollandovic Socialo-Tretrovic a été nommé homme de l'État de l'année à New York.
Ouais !
Qu'il lui reste au moins 7 mois de pouvoir avant de se prendre une grosse veste aux élections. Alors que Poutine, qui est très en difficulté dans son propre pays, qui doit trembler pour son poste de dictateur à vie, devant cette terrible menace d'un discrédit mondial, opprobre suprême quand c'est le président sortant de la France qui le jette. Donc ce même Hollande, qui bombarde aussi la Russie, qui lui envoie un porte-avions, des bombes, et qui refuse d'accueillir dignement les ressortissants qui fuient la mort, se met par des engins qu'il se vante de vendre par dizaines aux pays du coin. Donc Poutine, il a dû trembler dans son kimono. Une petite goutte de sueur a dû perler au bout de sa kalachnikov. Il a dû voir s'indigner les petits électeurs de Hollande, le soir, dans leur petit canapé. Il a dû voir leurs petits poings se serrer, et puis leurs ergots se gonfler, pendant que Hollande, il en appelait à la communauté mondiale des États. C'est une brave bête, ces trucs. Donc il a dû se mettre à la place du citoyen lambda du monde. La Russie est capable de tuer des innocents, de raser une ville, Alep, pour ses intérêts. L'armée russe est violente, équipée, entraînée, organisée, il lâche rien, ça fait peur. Bon, on va être discrédité. Puis il a dû rigoler, il nous a envoyé quelques bombardiers nucléaires pour nous rappeler qui c'est le chef. Donc on passe sur les millions donnés à Marine Le Pen, aux vieilles infos justement où on explique qu'ils nous mettent une pression militaire, que nous on leur met des sanctions économiques. On va juste remarquer la désinformation terrible dont on est victime, soit concernant la Syrie, soit concernant la position de la France en Syrie, que la paix là-bas s'est très mal barrée, et que le discours de Hollande à l'étranger, ça tente maladroitement de nous faire croire que c'est un homme qui compte, contrairement à Dassault et aux armes françaises.
Donc pour continuer sur des chefs d'État humanistes, on va partir aux États-Unis. Ce week-end, le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, a fait l'objet d'une très forte controverse. Une vidéo datant de 2005 a été publiée par un journaliste du Washington Post, vendredi dernier. Celle-ci montre le candidat, croyant que les micros étaient coupés, discuter avec un animateur télé et tenir des propos des plus obscènes et dégradants sur sa façon de traiter les femmes. Entre négation du consentement et réification du corps de la femme, Trump reste fidèle à lui-même. Le mercenaire, autant pour moi, c'est un lapsus. Le milliardaire le plus libidineux des États-Unis a eu beau s'excuser, la polémique n'en a pas moins été atténuée. À la suite de cela, une vingtaine de personnalités républicaines ont retiré leur soutien au candidat et ont demandé que celui-ci quitte la course à la présidentielle. À un mois du scrutin, la demande semble assez irréaliste. Un changement de candidat de dernière minute n'est possible que dans un nombre restreint de cas, d'essais ou d'émissions. Or, Trump ne semble pas décidé à abandonner ni à décéder. D'autant plus que malgré l'indignation de ses comparses républicains, sa base électorale ne semble pas plus choquée que d'ordinaire par les déclarations du candidat. D'après un sondage, seuls 38% des électeurs estiment qu'il doit se retirer et parmi eux, seuls 12% se déclarent républicains. 12%. À noter que ces chiffres n'ont pas grand-chose d'étonnant. En effet, la campagne de Trump étant fondée sur une ribambelle de déclarations polémiques, il est plus surprenant de voir les républicains s'indigner de la dernière en date que l'inverse. Donc Trump cumulant tout un tas de punchlines racistes, homophobes, islamophobes, latinophobes, j'en passe et des meilleurs, le candidat républicain a pris l'habitude de piétiner toute idée du politiquement correct. La question à poser est alors de savoir pourquoi cette déclaration a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Possiblement du fait d'une identification plus forte des membres du parti au groupe visé par cette polémique, à savoir les femmes. Donc, en effet, au sein des Républicains, qui s'intéresse aux musulmans, aux latinos ou à la communauté LGBT?
Samedi dernier, les Congolais de Lyon ont manifesté contre le président Kabila. En effet, la semaine dernière, ce président a annoncé vouloir reporter les prochaines élections présidentielles du Congo. Alors que sa date de fin de mandat devrait être le 19 décembre, il cherche à la déplacer afin d'avoir le temps de modifier la constitution et de briguer un troisième mandat, ce qu'elle ne permet pas actuellement. L'argument qu'il avance est qu'il aimerait inscrire de nouveaux électeurs. Au pouvoir depuis 2001, c'est-à-dire depuis l'assassinat de son père, Kabila est vivement contesté au sein de son pays et par les Congolais vivant à l'étranger. Le 19 septembre, une manifestation à Kinshasa contre son pouvoir avait fait 50 morts. Samedi dernier à Lyon, les manifestants se sont rassemblés au nombre d'à peu près une centaine pour protester contre Kimbala et dénoncer la crise politique au Congo, et surtout la cécité des médias français sur le sujet.
Dans cette suite des politiciens véreux, on a appris fin septembre que le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé avoir recruté l'ancienne commissaire européenne Comi Hedegaard. La conservatrice danoise siégera au sein d'un conseil en soutenabilité. Elle était de 2010 à 2014 en charge de la politique européenne en faveur du climat. Donc, en pleine tournante de Dieselgate, où Volkswagen a mis en place des logiciels pour frauder dans ses véhicules diesel et qui lui permettaient de masquer les émissions réelles, le groupe automobile a besoin de se redorer de son image. Kim Huyck, une ancienne commissaire européenne responsable de la régularisation des émissions de CO2, peut l'y aider. L'ancien commissaire au climat ne fait que suivre la voie ouverte par ses pairs. Avant l'été, l'ancien président de la Commission européenne, Manuel Barroso, a rejoint la banque états-unienne Goldman Sachs. Banque condamnée à de lourdes amendes pour avoir vendu des crédits pourris en connaissance de cause pendant la crise des subprimes de 2008. Goldman Sachs avait auparavant aidé les précédents gouvernements grecs à maquiller la réalité de la dette publique aux autorités européennes. Là encore, aucun conflit éthique ne semble animer le social-démocrate portugais. En mai, c'est l'ancienne commissaire au numérique, la néerlandaise Nelly Kroes, qui a emménagé chez Uber. Ses compétences et carnets d'adresses sont sans doute utiles pour une entreprise en délicatesse et plusieurs pays européens, et pointée du doigt pour ses pratiques d'optimisation fiscale. Nelly Kroes est par ailleurs mise en cause pour avoir caché au service de la commission son implication dans une société enregistrée aux Bahamas, paradis fiscal notoire. Sa fonction de directrice entre 2000 et 2009 de Mint Holding Limited ne figure pas dans sa déclaration d'intérêt. Donc ces conflits d'intérêts flagrants et ces pantouflages au plus haut niveau de l'exécutif européen ne sont pas nouveaux. En 1999, un ancien commissaire européen aux télécoms, l'allemand Martin Bengelmann, rejoignait le géant espagnol Telefonica, juste après avoir mis en œuvre la dérégularisation du secteur qui a mené en France à la privatisation de France Télécom. 17 ans plus tard, rien n'a été fait pour empêcher ces pantouflages. Les derniers exemples de Barroso, Kroes et Heldegaard vont-ils enfin susciter des mesures ? Le 4 octobre, les députés européens ont réclamé des mesures concrètes au commissariat européen aux affaires économiques, le français Pierre Moscovici. Il souhaitait un renforcement du code de conduite qui s'applique aux commissaires européens, une prolongation du délai pendant lequel les anciens commissaires ne pouvaient pas vendre leurs compétences au secteur privé et des sanctions dans les cas d'infractions évidentes ou réelles. Mais comme d'habitude en France comme ailleurs, comment attendre de ceux qui sont au pouvoir de s'auto-limiter ? Cela relève donc ainsi plus de l'utopie que de la réalité.
Ok, donc au niveau national, donc passons sur la suppression des trains de nuit. En effet, faute de repreneurs par des partenaires privés, donc l'État ne veut plus financer l'exploitation de ces lignes. Donc on parle de trains de nuit, donc d'intercité. Ainsi, 4 des 8 lignes vont être officiellement supprimées. Les raisons invoquées, donc il y en a plusieurs. Selon le secrétaire d'État au transport, Alain Fidalies, l'offre de nuit ne répond plus de manière satisfaisante aux besoins des voyageurs. La fréquentation serait en baisse à hauteur de 25% depuis 2011. Un coût économique également trop important, trop cher, car les billets donc, seraient subventionnés à hauteur donc, de 100 euros. Donc c'est l'État qui paierait donc, sa subvention à hauteur de 100 euros. Donc, un collectif a été créé donc, pour dénoncer cette suppression des trains de nuit. Donc, le collectif s'appelle « 8 aux trains de nuit », qui réunit une trentaine d'associations, de syndicats et partis politiques de gauche. Ce collectif dénonce donc le sabordage du service public et les syndicats du cheminot déplorent donc un désengagement de l'État. Les trains de nuit répondent pour autant donc aux objectifs donc écologiques, donc aux accords donc de Paris qui ont été donc ratifiés donc par le Parlement européen ce 4 octobre. Qui donc rappelons et donc contenir le réchauffement climatique sous le seuil donc des 2 degrés. Le train donc, reste donc, le mode de transport le plus économe donc, en émissions de CO2. Ce collectif, donc, oui au train de nuit, donc, demande en fait, une nécessaire réinvention de ce mode de transport, une meilleure promotion commerciale, une création de wagons-bars pour l'instant inexistants, et d'améliorer donc, la maintenance. Ils prennent donc, en exemple donc, la Suède, le pays où l'État là, a choisi donc, de réinvestir de l'argent dans ces lignes de nuit, ce que ne fait pas donc, la France, qui va donc, à l'encontre des accords donc, de Paris et pour des raisons budgétaires, ou encore une fois donc, le service public passe à la trappe.
Donc, niveau national, en France toujours, on m'entend là ?
On t'entend très bien.
Super. Eh ben, c'est Poulet Frit, donc le secrétaire adjoint du syndicat Alliance 91, qui est majoritaire chez les gardiens de la paix, force de l'ordre, suite à l'agression de Viry Châtillon, eh bien, a le plaisir de nous déclarer que ses collègues sont proches du burn-out. Donc ce poète, ce secrétaire adjoint, il s'appelle Frédéric Lagache, même nom qu'une ancienne cité mésopotamienne, perdu entre le Tigre et l'Euphrate. Et on peut dire, qui sait, choisir ses expressions. Il y a 2 fonctionnaires de police qui se font molotofer dans leur bagnole. Et lui, il nous alerte sur le risque de burn-out. Donc au moins, il ne s'est pas trompé. Merci Fredo. Il nous indique également que les comicos peuvent plus tourner, qu'ils ont viré trop de gens, qu'ils réclament donc pour les sons 300 gardiens en plus, puis aussi qu'on répare les portails et les caméras des comicos. Donc il indique également que ses collègues, ils ont la peur au ventre, et le syndicat, ils appellent à une sorte de grève ou de protestation, à savoir que les gendarmes, avec des armes, ils sortent plus des commissariats qu'en cas d'urgence. Et qu'en plus, ils soient plus la cible de la haine anti-flic. Au syndicat inspiré, au Saint-Alliance, quelle idée de génie. Donc on espère que pour une fois, ils vont faire ce qu'ils disent. Qu'il n'y aura plus de prunes, plus de PV, plus de contrôle aux faciès, plus de répression des manifestations. Que tous les trucs qui sont urgents disparaîtront. D'ailleurs, nous, pour éviter ce genre de drame, on préconise la dissolution de la gendarmerie. S'il n'y a plus de gendarmes, ils seront plus agressés. Également de la vidéosurveillance, des ghettos aussi et des périphériques.
Alors, dans les autres joyeusetés au niveau national, on a des infos assez tristes aujourd'hui, clairement. Donc, au cœur d'une campagne plutôt assombrie par des sondages en demi-teinte et des souvenirs d'un quinquennat précédent, Nicolas Sarkozy a tenu son plus grand meeting avant le premier tour de la primaire de la droite au Zénith de Paris ce dimanche. Dans une salle remplie par quand même plus de 6000 participants, la plupart venus à des drapeaux français, on imagine l'ambiance, l'ancien président de la République s'est posé en candidat du peuple. Mais on aura tout entendu, c'est bien. Donc, selon lui, la véritable modernité, c'est d'oser redonner la parole au peuple français. Il y a de la modernisation pour l'élite, il y a de la modernisation pour le peuple, il y a de la modernisation hors sol, ou une modernisation enracinée dans notre histoire. Peuple de France, allez dire que la majorité silencieuse a décidé de ne plus être silencieuse. Donc c'est génial, M. Sarkozy veut redonner la parole aux Français. Et donc, qu'est-ce que nous propose dans notre clou national pour permettre au peuple de s'exprimer ? Un truc pas très très nouveau au final, des référendums. Donc, quid de la démocratie participative et de ce qui doit être un gros mot pour eux, la démocratie directe. Ainsi, il a annoncé qu'il organiserait deux nouveaux référendums s'il était élu, l'un sur la suspension du regroupement familial, l'autre sur l'internement préventif des fichiers S, les plus dangereux selon l'ancien chef de l'État. Donc pour rappel, en fait, la plupart des fichiers S, donc c'est des gens qui, pour la plupart, sont soit des militants politiques, souvent écologistes, parfois altermondialistes, mais dans les faits, extrêmement rarement dangereux. Et surtout, c'est quelque chose qui a été plusieurs fois dit par la justice française, en fait, par l'ensemble des juges, qui était totalement impossible d'enfermer des gens de façon préventive avant même qu'ils commettent le moindre acte des tueux. Donc, concernant la primaire des Républicains, il commence à prendre très peur. Il a mis en garde contre l'apport des voix de gauche qui pourraient aller vers son rival. De fait, la primaire des Républicains étant très facilement accessible, de nombreux militants de gauche, notamment, ont prévu de venir la troller en venant voter pour Juppé ou un autre guignol en lice pour le titre de roi des cons. Selon lui, la France est aussi très malade, donc il propose que l'on la soigne autre chose qu'à de l'homéopathie. Pour la soigner, donc Sarkozy, lapsus, la France pour soigner la France contre le déclassement que subissent les classes moyennes, Monsieur Sarkozy a répété ses propositions. Donc il va baisser l'impôt sur le revenu de 10%, rétablir les heures supplémentaires défiscalisées, une baisse des charges de travail de plus de 34 milliards d'euros, une dégressivité des allocations de chômage, une exonération des droits de succession jusqu'à 400 000 euros par enfant. Donc en clair, on enlève encore plus aux pauvres, on donne encore plus aux riches. Donc on voit ici cette magnifique logique, encore une fois à l'œuvre, qui consiste à priver l'État de ses ressources en espérant que la magie du capitalisme opère et que l'argent se mette enfin à couler à flot. Pour finir, tout au long de son discours, le candidat à la primaire a opposé l'élite, qui selon lui est guère présente dans le métro et dans les trains de banlieue, qui regarde la France d'en haut, à la majorité silencieuse qui ne manifeste pas, qui ne bloque pas, qui ne revendique pas et qui a pourtant bien des choses à dire. On croit rêver quand on entend Sarkozy vouloir être le porte-parole de la moitié des fils d'ouvriers qui resteront ouvriers, des jeunes enseignants dans les quartiers difficiles ou de la classe moyenne qui s'est mise à compter ses fins de mois. Au fil des semaines, la campagne d'ancien président de la République ressemble de plus en plus à sa campagne présidentielle de 2012. Ça nous promet encore de bons moments.
On est très fiers à Radio Canu d'avoir pu vérifier l'utilité de nos appels aux dons, puisque suite à notre annonce de la semaine dernière où on avait demandé aux auditeurs de filer un petit coup de main à Kim Kardashian, c'est chiant, suite au vol de ses bijoux, un passant lui a ramassé sa breloque et lui a rendu. Donc on est content de communier avec vous dans le Star System et de commenter ces infos palpitantes. Donc on apprécie toujours parce que C'est comme ça, on a été élevé au mauvais grain. Eh bien, ces faits divers extraordinaires.
La suite au prochain épisode. Si. Chaque fois que vous retrouvez un bijou, vous nous l'envoyez. Et puis,
on le renvoie à Kim.
On le renvoie à Kim, enfin si on ne l'a pas perdu en chemin.
Bon, et alors pour ceux qui avaient qui ont la télé, vous avez peut-être regardé hier soir la nouvelle émission de Karine Le Marchand qui s'appelle Une ambition intime. Et donc le principe de l'émission, selon la présentatrice, c'est de recevoir les candidats à la présidentielle, non pas pour qu'ils parlent de leur programme, mais plutôt de leur personnalité. Autrement dit, il faut montrer la part sensible et humaine de ces personnes qui ne sont pas que des hommes et des femmes politiques, et qui sont malheureusement toujours malmenés pour les journalistes politiques. Alors heureusement, Karine Le Marchand est là pour montrer qui ils sont réellement. Elle-même revendique le fait de ne pas être une journaliste politique et elle affirme n'avoir aucun intérêt pour la politique. Donc elle reçoit ses invités sur un divan, elle copine avec eux, elle leur sert à boire, et puis ils se racontent des petits souvenirs d'enfance et des événements importants qu'ils ont eus dans leur vie. Et tout ça, ça participe en fait à la pipolisation des hommes et des femmes politiques, ou comme le dit Le Monde, à la Kim-Kardashian, j'arrive pas à lire tellement c'est long, de la société.
Kim Kardashian, c'est chiant.
Oui, c'est... c'est ça. Alors hier soir, il y avait Bruno Le Maire, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg et Nicolas Sarkozy. Alors notamment sur Marine Le Pen, elle s'est défendue en disant que si elle ne l'invitait pas, on lui taperait sur les doigts. Et que donc, comme elle était une femme politique, il fallait l'inviter. Mais elle refuse de croire qu'elle participe à la dédiabolisation du FN. Les invités ont libre parole et personne ne viendra les contredire, surtout pas Karine Le Marchand, qui au contraire va plutôt aller dans leur sens dès qu'ils disent quelque chose. Et donc une des questions, notamment dans l'émission que pose Karine Le Marchand, c'est à qui téléphoneriez-vous si vous étiez élu ? Et ceci rappelle le thème d'une émission du Monde qui s'appelle « Et si c'était vous ?», où un homme ou une femme politique joue à se mettre dans le rôle d'un personnage historique célèbre. Et donc cela donne une importance à la... Pardon. On change en fait la place qu'une personne politique a réellement dans la vie actuelle en la faisant jouer celle d'un personnage historique. Et donc au lieu de s'intéresser en fait au programme, aux idées politiques d'une personne et au rôle qu'elle aura à jouer quand elle sera, enfin, si elle sera effectivement élue, on s'amuse juste en fait à une image et à une pipolisation des politiques.
Juste une petite brève aussi en passant, une information de copains marseillais. Il y a eu ce week-end une nouvelle manifestation contre l'ouverture qui date un peu d'un local en fait des royalistes à Marseille, et donc ils ont continué à manifester. Local qu'ils ont osé ouvert à la Plaine, qui pour ceux qui connaissent pas est le cœur central en fait de la vie militante marseillaise. Et donc on espère que ces manifestations continueront et que ces connards débarrasseront pas le plancher. Je peux dire vive le roi si tu veux.
Je l'attendais quand même. Le roi est mort. En tout cas, ça c'est sûr. Info locale, on fait un petit retour sur le rassemblement qui a eu lieu au Mas du Taureau, place Guy Moquet, à Vaux-en-Velin samedi. Il n'y avait pas grand monde, mais ça s'est bien passé. C'était dans la bonne humeur, il y a eu beaucoup d'échanges. Et concernant les problématiques de la rénovation urbaine, de l'aménagement capitaliste du territoire, une grande journée va être organisée dans un futur proche. Et on appelle toutes les bonnes volontés à travers Rebellion à proposer soit des expériences vécues sur la rénovation urbaine, sur les difficultés que les quartiers rencontrent, et également se tenir à l'écoute des rendez-vous qui vont être posés sur ces questions-là.
La logique du truc, c'est aussi de mettre en place une véritable ZAD dans les cités et qui sont des véritables zones à défendre. Quoi.
Et tous les samedis matins, à 10h, Mas du Taureau, place Guy Moquet, des gens s'organisent, des gens essayent de trouver cette convergence. Donc tous les samedis matins, à 10h, place Guy Moquet, à Vaux-en-Velin.
Et donc, pour finir sur l'actualité, samedi prochain, comme chaque année à Lyon, aura lieu à Bellecour la distribution du célèbre guide lyonnais, le Petit Paumé. Tiré à 250 000 exemplaires pour l'occasion et réalisé par les étudiants de l'EM Lyon, le lancement de la nouvelle édition du City Guide jouit d'une campagne événementielle assez incroyable. Avec un budget de 650 000 euros en 2015, ce guide a prévu un lancement en grande pompe qui compte concerts, spectacles et le tout en plein milieu de la place Bellecour. Donc, bien que bénéficiant d'une cote de popularité assez élevée auprès des Lyonnais, le guide n'en est pas moins exempt de critiques. Donc, d'une part, il se revendique de l'indépendance, mais il est néanmoins à noter que le Petit Paumé est financé par la publicité qui jonche ses pages et pollue son site internet. Par exemple, à peine entré sur le site, on tombe direct sur une pub de la Société Générale. C'est un petit peu agressif. Par ailleurs, certains commerçants ont lancé un macaron aux réponses aux macarons recommandés par le Petit Paumé. Donc, ce macaron est à l'initiative d'un collectif de 5 commerçants lyonnais et il s'agit d'un macaron refus du Petit Paumé en réponse à certains palmarès du guide tels que la serveuse la plus hot ou encore la plus grosse chiasse après le repas. C'est d'une finesse incroyable. Du coup, à Radio Canu, on peut vous aiguiller vers d'autres guides un peu plus intéressants, un peu plus pertinents, un peu plus fouillés. Donc on vous propose d'aller voir vers l'association Anciela qui a publié son premier guide l'année dernière et qui est censé recommencer cette année. C'est le guide des alternatives. Donc voilà, on vous renvoie vers ça pour un peu plus d'alternatives que le Petit Paumé.
Maintenant, c'est le moment de notre focus sur les difficultés des associations écologiques. C'est-à-dire qu'en dehors de l'écologie politique, notre territoire, comme beaucoup d'autres, foisonne d'initiatives écolo. On peut en citer quelques-unes. Il y a celles qui visent la préservation de la nature et des écosystèmes, comme par exemple la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Il y a aussi des initiatives qui luttent contre les pollutions. On peut citer les Robins des Toits, qui mènent des actions contre les pollutions des antennes relais, le collectif Valve pour la ville à vélo, ou encore le réseau Sortir du nucléaire. En plus de ça, il y a aussi des associations et des collectifs sur l'éducation à l'environnement, comme la Maison de l'environnement ou le réseau Graines, et également des collectifs pour la gestion des déchets et la lutte contre les gaspillages. On peut citer Ondine ou les Discosoupes.
Il y a aussi bien sûr toutes les structures qui agissent pour une alimentation qui privilégie l'agriculture locale et durable et la relocalisation de la production alimentaire. On a beaucoup d'AMAP sur le territoire qui sont fédérés par le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes et aussi d'autres systèmes de paniers comme Alter Conso, les paniers des jardins de Cocagne, etc. Il y a les assos qui accompagnent les projets agricoles en bio et en paysanne, Cora Bio, Ardap, Ardéar ou Solidarité Paysan. Également, on trouve des jardins partagés, beaucoup de jardins partagés sur le territoire qui sont recensés au niveau régional par le Pass Jardin. Et puis des initiatives type Incroyable Comestible qui consistent à planter des légumes et des herbes aromatiques un peu partout en ville et qui sont mises à disposition de tout le monde en libre service. Citons enfin le collectif du BOL, Pôle de coopération sur l'alimentation, qui regroupe une vingtaine de structures.
Etc, etc. Beaucoup d'assauts donc qui reposent largement sur la bonne volonté et le dynamisme des bénévoles, mais qui pour survivre et mener à bien leur mission ont besoin de financement, ce qui repose donc la question de leur indépendance vis-à-vis des collectivités et des pouvoirs publics. En ce moment, plane une grande inquiétude sur le devenir de ces assauts, avec la baisse voire la suppression des subventions qui leur étaient allouées. On ne comprend pas bien la cohérence des élus avec les promesses du Grenelle de l'environnement ou plus récemment de la COP21.
La FRAPNA, par exemple, qui est une association indépendante, agréée pour la protection de l'environnement et reconnue d'utilité publique, fédère plus de 200 associations et emploie une centaine de salariés, assure des tas de missions d'intérêt général pour la défense de l'environnement. Par exemple, avis officiel pour les consultations, sensibilisation auprès des enfants, des adultes. Elle a aussi un rôle important de contre-pouvoir, notamment devant les tribunaux, pour les projets du type Center Parks, extension de stations de ski ou barrages. La FRAPNA avait signé des contrats de 3 ans avec l'ancien conseil régional et les conseils départementaux pour financer ses activités jusqu'en 2017. Mais les nouveaux élus de la région et de plusieurs départements, Drôme, Savoie, Isère, ne voient plus les choses de la même façon. Ils ont revisité ces contrats et ont choisi de réduire soit de moitié, soit au trois quarts, soit à zéro, les subventions prévues pour la FRAPNA en 2016. Résultat, 18 emplois d'utilité publique supprimés, des missions d'intérêt général abandonnées et à terme, quid de la survie de la FRAPNA. Face à cette situation, l'ASSO a lancé une campagne d'appel aux dons Save FRAPNA. Save en acronyme pour le sol, l'air, le vivant et l'eau, nos biens communs. Sur une note plus légère, elle a aussi lancé le hashtag Adopte un bobo des villes pour cette campagne de dons. Clin d'œil au site de rencontre Adopte un mec, mais bobo des villes, ça vous rappelle quelque chose ?
Ben oui, la petite expression sympatoche de Philippe Meunier, conseiller régional, vice-président délégué en charge notamment de la chasse et de la pêche. D'ailleurs, étrange sa délégation hein, avec chasse et pêche, il a sécurité et partenariat. Car il faut préciser que la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'allouer une subvention de 3 millions d'euros sur 3 ans à la Fédération régionale des chasseurs. Du coup, la région est taxée de clientélisme. Ils chassent LW. Non, et puis en plus, il y aurait un envoi de liste des adhérents de la fédération à la région. Bon, mais Philippe Meunier nous explique quand même par une belle rhétorique, bien clivante et bien simplificatrice, pour que ça imprime bien nos petits esprits, qu'il y a deux façons de voir la ruralité, la préservation de la biodiversité. Soit on le voit du côté des bobos des villes, soit on discute avec les acteurs de terrain qui connaissent le monde rural. Donc d'un côté, on a les associations de protection de l'environnement et de l'agriculture paysanne et bio. Et de l'autre côté, on a les chasseurs, peut-être un peu aussi derrière la FNSEA. Bon, comme ce sont eux les véritables acteurs du monde rural, on leur alloue une subvention démesurée sans précédent en France, et puis on diminue drastiquement les aides aux associations.
Donc on note quand même qu'en matière d'agriculture, donc c'est pas l'agriculture intensive et donc l'agriculture au sens large qui est ciblée par ces coupes budgétaires. Ce sont les agriculteurs qui travaillent sur l'agriculture durable et paysanne. Comprenez plutôt donc branchés, confédérations paysannes. Et étrangement, on trouve parmi donc, eux donc, les nouveaux conseillers régionaux et pas mal d'anciens de la FNCEA. Bon, du coup, on ne s'étonnera pas que les réseaux Impact, Rhône-Alpes, se soient également mobilisés pour alerter sur les difficultés dues aux baisses brutales des subventions régionales. Donc, Impact, donc, c'est un réseau, donc IN, donc avec un N, ça veut dire donc, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Le réseau donc, regroupe des structures. Qui sont relativement donc connus et qui ont vu donc leurs subventions donc régionales diminuer ou supprimer. Donc par exemple Terre de Liens, le réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Impact, excusez-moi, donc a écrit donc lettre ouverte aux conseillers régionaux qui est resté sans réponse et a lancé une pétition pour le maintien de la diversité des structures d'accompagnement agricole.
Ce qui n'a pas du tout été apprécié par les élus régionaux et n'a pas eu vraiment d'effet. En matière d'environnement, la nouvelle région s'attaque aussi à ses parcs naturels régionaux. Ainsi, elle annule la création du PNR de la Dombe dans l'Ain. Ainsi, elle annule celle du PNR Gorge et Source de l'Allier.
On a une copine qui est en train de s'étouffer. Est-ce que ça va ? Ok.
Elle est saine et sauve. Donc, elle annule aussi celle du parc national régional Gorge et Source de l'Allier, projet qui a mis des années à se monter et dont l'annulation fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif déposé par les élus régionaux Rassemblement Citoyen Écolo Solidaire, les Verts. Ainsi, elle baisse les subventions allouées au parc et leur préférant des contrats de territoire, c'est-à-dire des enveloppes à destination des communautés de communes dont les contours sont plutôt flous.
Bon, au final, au motif d'une lutte contre le gaspillage de l'argent public, la diète voulue par LW, la région diminue de 30% son budget alloué à l'environnement. Et en parallèle, elle choisit de financer un Center Park, 4,7 millions d'euros pour Roabon, un plan montagne, 10 millions d'euros pour favoriser la neige de culture, et une nouvelle autoroute aux coûts démesurés et aux conséquences environnementales désastreuses, comprenez 132 millions d'euros pour la 45. Et puis potentiellement d'autres beaux projets comme la ligne Lyon-Turin ou le bétonnage du joli village drômois d'Allan pour une gare TGV. Les alouettes des prairies. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
je te plumerai.
Ouais, bah alouette. Ouais, les alouettes, on va, alouette. Vont se faire plumer.
Merci Laurent Bocquet, LW.
Pas très concerné par les enjeux écologiques, ces nouveaux élus régionaux, ni d'ailleurs par le social ou l'insertion, et encore moins par la culture. À ce propos, Laurent Wauquiez n'a pas du trop apprécié de se faire huer samedi soir à l'ouverture du Festival Lumière à la Halle Toline Garnier. Mais nous, on aime bien les siffler.
LW.
Voilà, on va peut-être pouvoir présenter nos invités pour parler des difficultés des assos écolos sur le territoire en ce moment.
Oui, alors, nous avons eu envie d'inviter deux invités. Avant ça, je vais juste vous faire part de mes impressions du week-end pour introduire la chose. Ce matin, au café d'une terrasse, il est 10h20. L'air frais passe par les pores de mes mains. On est lundi matin, regain d'énergie, regain des possibles, début de semaine. Avec quand même en background cette impression de fin de semaine baignée dans du non-sens. Quelques-uns se battent depuis des années pour prendre soin de notre écosystème, de l'air frais qui passe par nos pores. Un, LW, arrive au sommet de la pyramide et jette. D'autres, au sommet depuis longtemps pour continuer à piller la terre, vont jusqu'à décimer, bombarder tous les habitants d'une ville, Alep, éclater les corps humains. Pendant ce temps, le premier roitelet de notre pyramide locale, LW, ferme les frontières aux survivants. J'ai plus que jamais la sensation profonde que tout est lié et qu'on nous plonge petit à petit dans une vie de non-sens. Au milieu de ce rassemblement sauvons Alep, si maigre, comme au milieu de ces conversations avec mes amis des associations environnementales, j'ai ce désarroi de découvrir que justement je découvre l'urgence de se mobiliser pour sauver, pour soigner, pour faire contrepoids face au saccage, au pillage de la terre au total. Et à la même minute, ce désarroi de me rendre compte qu'on est si peu à décrypter et à peser dans la balance. Et qu'on ne peut pas être partout. Est-on vraiment si peu ? Voilà ma sensation du moment. Et pour essayer de continuer à peser dans la balance, nous avons invité Bastien Copetti, des Compostiers.
Bonjour.
Et Élise Ladevez, du réseau Graines.
Bonjour.
Alors, ils vont nous raconter un peu leur péripétie au sein de ces deux associations. À l'heure où on erre dans des ambiances de point de non-retour du changement climatique, à Lyon et en région de Rhône-Alpes, comme on l'a déjà évoqué, effectivement, il y a une dépossession des initiations des citoyennes face aux enjeux environnementaux par les collectivités qui sont plutôt censées les appuyer, les soutenir et les développer. Les Compostiers sont une association qui promeuve et accompagne la mise en place de composteurs collectifs urbains. Est-ce que, Bastien, tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors les Compostiers est, j'ai presque été du coup, une association qui s'est créée en 2009, qui avait pour but de promouvoir et développer le compostage collectif urbain, qui partait du constat que rien n'était fait pour les déchets, nos ordures ménagères, nos épluchures quand on cuisine. Et que tout le monde ne pouvait pas le faire, n'avait pas le luxe d'habiter en campagne, d'avoir un petit jardin personnel pour pouvoir composter chez soi. Et qu'en ville, on nous disait que c'était pas possible. Or, si c'est possible, si on se met de façon collective pour se réapproprier le pied de son immeuble ou une terre creuse dans le quartier pour pouvoir composter. Donc, après avoir vu plusieurs personnes et fait des réunions dans des bars pour voir si le projet pouvait fédérer des gens et que voilà, si le but du collectif, c'est pas d'être tout seul, ben, ce projet-là a marché. Et en 2009, on a monté le premier composteur collectif public, donc du coup, dans le 7e, l'îlot d'Amarante. Et puis, petit à petit, une demande non exprimée a pu s'exprimer et l'association a grossi et on a accompagné plusieurs types de personnes, d'habitants de manière générale au compostage sur toute l'agglomération, la métropole. On a eu donc du coup aussi, on a présenté le projet à la métropole qui a trouvé ça un projet, on va dire une initiative sympa et nous a décidé de nous financer. Et donc pendant jusqu'à cette année, donc nous étions partenaires de la métropole et d'autres, la région aussi qui a arrêté. Bon là c'est pas la faute à Vauquier, c'est un appel à projet qui a été de nous financer.
Alors on n'a pas entendu ce dernier morceau de phrase.
Peu importe, mais en tout cas tout ça pour dire que l'association a grossi. On a accompagné plusieurs collectifs d'habitants dans des copropriétés avec des bailleurs sociaux dans des quartiers, tout type de quartiers, autant dans le 6e qu'à la Guillotière, qu'à Vaux-en-Velin, qu'au Pérolier, aux Sources, à Écully. Enfin voilà, c'était vraiment très démocratique.
Est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle combien de composteurs existent sur l'agglo?
À l'heure actuelle, le chiffre exact, j'ai plus en tête, mais c'est autour de 80 composteurs collectifs qui existent sur l'agglomération et qui sont tous gérés par des habitants. Nous, l'association ne se posait pas en tant que gestionnaire de déchets et de composteurs, mais le but est d'accompagner des habitants qui reprennent déjà en main leur espace collectif. Et après, nous, c'est de pouvoir leur donner un savoir qui est le compostage, qui n'est pas compliqué en soi, mais pour qu'après, chaque habitant soit autonome dans la gestion et la valorisation de leurs propres déchets.
Et alors, cette année, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait en fin de convention de partenariat avec la métropole, et après nous avoir fait lorgner notre subvention qui allait sûrement doubler parce que on était conventionné sur un test et c'était la fin du test et preuve était que ça a marché. Au lieu de retourner sur une subvention pour soutenir le projet de l'association et donc des habitants qui l'apportent, elle a décidé de mettre en place un appel d'offres, donc de faire rentrer la réappropriation collective des habitants et la responsabilisation via leurs déchets sur le marché de l'économie marchande.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une subvention, il y a une mise en concurrence.
Au lieu d'avoir, exactement. Et mise en concurrence qui s'est très très bien effectuée parce que, il y avait, historiquement, nous on faisait beaucoup le compostage collectif. Mais il y avait aussi une partie qui était le compostage de cantines qui était faite par une autre association qui s'appelle Trièves Compostage qui vient de Trièves, parce que quand on s'est monté, on n'avait pas les épaules pour pouvoir faire le compostage dans les cantines, qui sont des gros projets avec des gros volumes. Et une autre association qui s'est créée, qui est là sur les pentes de la Croix-Rousse, qui s'appelle Les Aignas. Et donc, on a essayé au début de répondre à toutes les associations à cet appel d'offres pour dire, ben voilà, on y va ensemble, sauf que pas tout le monde a pu se mettre ensemble, notamment Trièves Compostage et Zegna, et parce que chacun a ses objectifs propres, et notamment des maintiens de postes, etc. Donc un premier appel d'offres a été déclaré infructueux parce que nous avions répondu avec Trièves Compostage et Zegna avait répondu avec Tarvel. Et Zegna, le groupement Zegna-Tarvel a été invalidé sur vice de forme, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc nous, comme on était les seuls concurrents et qu'il n'y avait pas de concurrence, le marché a été déclaré infructueux et ils ont remis un marché, donc ça c'était en février. Et ils ont remis un marché, donc du coup un second marché en avril, où il y a eu la réponse là mi-septembre. Et le fait est qu'aucune association lyonnaise ne va plus accompagner aucun projet lyonnais sur la métropole en termes de compostage. Et donc du coup c'est une association, enfin une boîte association, parce qu'elle n'a pas grand chose d'associatif à part le statut, qui va prendre le marché, donc qui va faire 350 km aller-retour pour pouvoir accompagner des habitants sur la métropole.
Et qui s'appelle comment ?
L'association s'appelle Trèves Compostage, et elle a répondu aussi avec une nouvelle SCOP qui s'est créée, qui elle est une boîte de paysagistes, voilà, qui fait de l'entretien de paysages copropriétés, qu'on avait vu avant, qui s'appelle Pistil, qui, quand elle s'est montée, est venue faire les yeux doux à tous les acteurs associatifs en disant, ben voilà, nous on veut être en partenariat, on veut travailler ensemble, etc. N'ayez pas peur du monde entrepreneurial. Et en nous regardant droit dans les yeux, en disant que de toute manière, eux, ils avaient assez de contacts sur la mise en place de, enfin sur l'entretien d'espaces verts, de copropriété, et que dans tous les cas, le compostage, ils n'iraient pas. Et dès que l'appel d'offres est sorti, ils sont mis. Donc c'est des personnes qui, dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ont surtout reconnu l'économie.
Oui, une question par rapport à vous, les compostiers, ces subventions, est-ce que ça vous permettait complètement de vous financer ou vous avez des moyens d'autofinancement quand même par rapport à votre activité?
Alors, jusqu'à présent, les subventions de la métropole, pour nous, c'est à peu près un tiers du budget. Il y avait une autre partie d'autofinancement avec les personnes qui payaient en partie leur matériel, etc. Donc on avait aussi une part d'autofinancement. Mais avec le marché, il n'y avait plus de politique publique sur le compostage, donc on n'a pas pu nous raccompagner de projet. Et de toute manière, le marché tel qu'il a été fait, c'est notre projet associatif qui a servi de base pour l'écriture du marché, donc avec toute notre méthodologie, etc. Donc on se fait piller notre
votre réponse.
Et notre statut associatif. Et là, maintenant, du fait qu'on n'ait plus le marché, qu'on puisse plus accompagner de composteurs sur la métropole, et là, on est avec le tribunal de grande instance. On a un rendez-vous demain pour une procédure de redressement judiciaire et peut-être de validation, selon ce que va dire de liquidation, selon ce que va dire le juge. Et en tout cas, toute l'équipe salariée se retrouve licenciée économique à l'heure où je vous parle.
Ok. Et ce qu'on peut peut-être soulever, c'est que vous faisiez beaucoup les compostiers d'accompagnement des habitants, donc des changements de comportement, et que vous leur donniez aussi la place de s'exprimer, et qu'il y avait beaucoup de composteurs sur l'espace public. Qu'est-ce qu'il en sera par rapport à ces deux données-là ?
Ben, le futur est très incertain. Ce qui est sûr, c'est que l'association est encore beaucoup soutenue par ses membres et adhérents. Après, pour la mise en place de composteurs... On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que l'espace public, étant donné qu'il est, même s'il est public, il appartient quand même à des mairies à la collectivité. Et ce qui est sûr, c'est que pour les composteurs, les copropriétés, si elles peuvent pouvoir se les payer, elles pourront être avec les compostiers si l'assaut continue. Mais ça pose une question d'égalité de ressources pour ceux qui veulent avoir accès au compostage. Et pour ce qui est des dents creuses qu'on peut avoir, et ben il est sûr que les mairies d'arrondissement diront on va rentrer dans le programme qui est fait avec la métropole et on va suivre celui de la collectivité. Donc à moins d'actes, je sais pas, de désobéissance civile ou de maires engagés sur leur territoire, je sais pas comment des composteurs collectifs mis sur l'espace public vont pouvoir voir. C'est des questions auxquelles il va falloir qu'on réponde aussi avec les gens qui en auront encore la force, mais en tout cas sans équipe salariée.
Bon, merci pour cet état des lieux. Alors, on va passer sur le Graine. Ça tombe bien, les compostiers sont membres du réseau Graine, qui est un réseau donc d'éducation, réseau Rhône-Alpes pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable, exactement en sous-titre, qui rassemble des associations, mais pas seulement, des institutions, des collectivités territoriales, des écoles, des centres de loisirs, des animateurs, des éducateurs, pour permettre à tous ces gens de se mettre autour de la table, d'échanger, de se former et d'avoir un poids, je suppose, et qui proposait aussi des dispositifs tels que le dispositif éco-acteur. Mais Élise peut peut-être nous parler de tout ça.
Eh bien oui, effectivement le Graine Rhône-Alpes, c'est un réseau d'éducation à l'environnement pour un développement durable. Alors on était un réseau régional jusqu'à il y a peu, mais maintenant on est un réseau mi-régional puisque la région s'est agrandie. Donc on travaille actuellement un rapprochement avec le collectif régional d'éducation à l'environnement en Auvergne. Effectivement nos missions, c'est de mettre en réseau tous les acteurs que tu as déjà listés tout à l'heure, pour leur permettre d'échanger, de partager sur ces questions d'éducation, de partager des outils pédagogiques, mais aussi des méthodes et des démarches pédagogiques, d'animation, toujours dans le souci de permettre aux personnes de participer. Donc on est dans des pédagogies actives. Et puis l'idée du réseau, c'est de faire ensemble plutôt qu'en concurrence. Et effectivement, on voit avec le CAC à exposé Bastien sur les compostiers que c'est un enjeu important à l'heure actuelle de pouvoir développer la coopération plutôt que la mise en concurrence. Et puis, tu as parlé du dispositif Les Éco-Acteurs. Les Éco-Acteurs, c'est un dispositif pédagogique qu'on a mis en place en 2009 avec pas mal de partenaires, dont les rectorats, la Direction Régionale de Jeunesse et Sport, la région Rhône-Alpes et puis la Direction Régionale de l'Environnement. En fait, ce dispositif, il permettait, du coup, parce qu'on a été obligé de le supprimer, à des enseignants, à des animateurs de centres de loisirs, de maisons de retraite, de maisons de jeunes, de centres sociaux, de monter des projets d'éducation à l'environnement en partenariat avec des associations spécialisées sur un thème de leur choix, que ça puisse être l'énergie, la biodiversité, la gestion de l'eau, Et l'idée, c'était vraiment de...
Ils recevaient une subvention, du coup. Pour
voilà, qui recevaient une subvention. En fait, le Grain, on faisait une demande de subvention globale qu'on redistribuait ensuite à peu près, enfin voilà, à toutes les associations qui allaient accompagner les projets sur le terrain et qui permettaient la mise en place d'actions concrètes pour l'environnement, mais choisies avec les jeunes, les enfants, les adultes, et mis en œuvre par eux. Donc c'était aussi un outil d'éducation à la citoyenneté active et qui permettait à chacun de prendre conscience qu'on peut agir sur son cadre de vie et y prendre du plaisir aussi.
Et alors, ce dispositif a été supprimé, quoi qu'est-ce ? Comment ça s'est passé ?
Alors en fait, le dispositif éco-acteur était financé par plusieurs partenaires, dont le principal était la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes soutenait le Grain en fait chaque année à hauteur de 276 000 euros, dont 95 000 euros pour le dispositif éco-acteur. Et donc bah, l'année dernière, à peu près à la même époque, on a déposé notre demande de financement pour l'année 2016. Cette demande n'a pas été instruite très rapidement. On a retravaillé plusieurs fois en se disant que les objectifs politiques régionaux avaient dû changer. Enfin, on a essayé voilà, de dialoguer avec les services de la région.
Oui, parce que c'était au moment de l'élection de la...
Oui, pardon. Et effectivement, c'était au moment du changement de l'élection du nouvel exécutif régional. Et donc, on se doutait que ce ne serait pas tout à fait pareil. Et effectivement, notre dossier devait passer en mai. Il a été retiré de l'ordre du jour d'une commission au mois de mai, sans qu'on ait d'explication. Au mois de juillet, on a appris que le président de la région avait décidé de supprimer la totalité de nos subventions. Donc on a monté une campagne de mobilisation qui s'appelle EDD Tous Concernés, avec un site internet qui permet aux personnes soit de soutenir par une signature, soit de témoigner avec une parole d'acteur. Et puis apparemment, cette mobilisation a porté ses fruits puisque le conseil régional a finalement voté une subvention de 100 000 euros pour le Grain Rhône-Alpes cette année en 2016. Ça, on l'a appris il y a 3 semaines. Donc avoir une réponse à cette période-là de l'année, quand on a déjà engagé des dépenses depuis le début de l'année, c'est un peu compliqué. Et puis donc, les éco-acteurs doivent s'arrêter puisque le financeur principal a arrêté de financer, tout simplement.
Et il y a 2 postes qui sont en péril, enfin...
Oui, en fait, on est une équipe de 6 salariés. Pendant tout l'été, on pensait être licenciés économiques tous les 6. Et finalement, avec ces 100 000 euros, on arrive à maintenir 4 postes. Donc il y a les 2 personnes qui sont en CDD actuellement qui verront leur contrat s'arrêter à la fin de l'année. Et puis donc les 4 salariés qui sommes en CDI, on continue encore cette superbe aventure pour quelques mois, puisqu'on pense, on a un petit peu peur de se retrouver dans la même situation pour les demandes de financement 2017.
Et ça, c'est des, au niveau des échéances, vous aurez des réponses, vous savez un peu ?
On n'a absolument aucune garantie sur les réponses. On espère avoir les réponses au printemps, parce que sans ça, on va se retrouver exactement dans la même situation financière qu'on l'était il y a 3 semaines. Et du coup, on n'a pas les moyens d'accuser autant de retard, y compris en termes de trésorerie. Donc si on n'a pas de réponse au printemps, on va peut-être se reposer la question de la liquidation de la structure.
D'accord. Et en gros, par rapport au dispositif éco-acteur, si on est une MJC, une école qui a envie de mettre en place un projet d'éducation à l'environnement avec un acteur et d'avoir un appui financier, maintenant on se retourne vers qui, quoi ?
Eh bien, on peut se tourner direct...
Les chasseurs.
Ouais, on peut se tourner vers les chasseurs, effectivement, qui ont une subvention de 3 millions d'euros sur 3 ans, dont 250 000 euros par an pour l'éducation à l'environnement. Mais sinon, on peut se tourner vers la collectivité, parce que finalement, la région en est une. Mais après, sur l'éducation, on sait bien que les communes et les départements sont aussi impliqués. Donc on peut inviter les porteurs de projets, les MJC, les enseignants, à demander directement une prise en charge financière aux collectivités locales. Elles peuvent aussi écrire au conseil régional pour demander quelle solution va être proposée.
Pour l'instant, il n'y a pas de solution proposée, en fait.
Pour l'instant, il n'y a pas de solution proposée. Et c'est un dispositif, effectivement, qui pourtant a fait ses preuves, mais qui est supprimé à l'heure actuelle.
Voilà, après toutes ces bonnes nouvelles, est-ce qu'on peut vous demander quelles sont vos perspectives et vos inquiétudes par rapport à la fois à vos deux associations, peut-être à des associations amies dans le champ de l'écologie lyonnaise ou rhône-alpine, auvergnine, auvergnoise, bref, ou aussi par rapport à vous-même, vos convictions dans ce milieu-là, ici, maintenant?
C'est une question délicate, l'avenir pas trop serein, enfin, moi, tel que je le vois sur l'associatif lyonnais, entre la politique à la scie de Wauquiez et de toute manière les collectivités qui vont de plus en plus vers la mise en concurrence, vers l'appel d'offres et qui ont de plus en plus peur des associations qui ont un réel projet militant et de fait vraiment avec les habitants et qui préfèrent avoir accès à des techniciens qui posent pas de questions et vraiment de la prestation de service plus que de la subvention. Voilà, des prestataires de services qui vont juste obéir aux ordres. Le contexte n'est pas joyeux en voyant le monde associatif. Après, en voyant les gens qu'il y a dessus, moi je vois rien qu'à l'AG qu'on a eu samedi à l'association, on a eu 100 personnes présentes et représentées à l'AG. Donc il y a quand même beaucoup de gens que ça interpelle. Enfin, les citoyens restent les mêmes et trouveront les moyens de s'engager et en trouveront d'autres formes. Pour la question précise des compostiers, ben on ne sait pas, c'est le tribunal de grande instance qui va voir ça. Donc pour l'instant, c'est procédure de redressement judiciaire, peut-être liquidation et une association qui va se retrouver qu'avec des adhérents. Voilà, il y a d'autres projets qui sont peut-être un petit peu dans les têtes de chacun, mais c'est. Très concrètement, pour les compostiers, c'est un peu. Même s'il y a beaucoup d'énergie, c'est un peu chaud.
Merci.
Et pour le grain, on me dit de faire très vite parce qu'on arrive au bout du temps. Les perspectives, c'est que j'espère qu'on va réussir à s'en relever, à trouver d'autres formes d'organisation pour continuer le travail en réseau, en s'appuyant un petit peu moins sur les financements publics, du coup. Y a plein d'autres associations qui sont touchées. J'ai pas le temps de les lister là. Mais je vous invite à venir regarder le site de la campagne www.edd-tous-concernés.org pour découvrir les enjeux pour les acteurs de terrain.
Et nous, on vous invite à une petite date samedi, l'Alternative Bar ouvre, c'est dans les pentes de la Croix-Rousse. Et c'est un.
Mais c'est pas déjà ouvert? L'Alternative Bar ?
Si, mais c'est l'inauguration samedi et c'est un bar où on peut parler de dynamique environnementale pour un changement climatique. Il y a aussi l'Odyssée des Alternatives qui va naviguer pendant la COP22 autour de la Méditerranée. Vous pouvez aller vous renseigner. Il y a un site internet qui s'appelle l'Odyssée des Alternatives. On se dépêche. Merci à tous ces deux invités et à tout le monde.
Merci. Oui, merci. Alors, simplement, l'agenda des manifestations. Il y a un événement samedi 15 octobre, une journée d'action nationale contre les traités de libre-échange, TAFTA et CETA. Rendez-vous à 11h à la Fosse aux Ours, place Antoine Jutard à Lyon 3e.
Il y a un rendez-vous à la MJC Saint-Just le jeudi 13 octobre à 20h pour regarder un film, un documentaire Petite Main sur la grève des ouvrières Le Jabi en 2012. Et pour terminer, il y a un rendez-vous le lundi 17 octobre à la MJC Jean-Massé à partir de 19h30 au sujet de l'association Bagagerue, qui est une association de bagagerie pour les sans-abri.
Vu qu'il reste une minute, on va rappeler donc il y a d'autres infos déjà toute la semaine. C'est un appel à action en soutien aux opposants à l'INTHT.
C'est donné à plus de...